Extrait de Colette Guillaumin, L'idéologie raciste, Genèse et langage actuel, édition Gallimard, 2002. Si la race n'existe pas, cela n'en détruit pas pour autant la réalité sociale et psychologique des faits de race. Reconnaissance qui ne doit pas se confondre avec l'admission de la réalité raciale comme réalité biologique. La biologisation de la perception, dès lors qu'elle est associée à la perception de la différence sociale, forme le nœud de l'organisation raciste. Le caractère physique apparent ou cru tel, y compris l'accent, la langue, la gestuelle, etc., se saisit comme biologique. N'importe quel type de différence physique peut être privilégié, pour autant qu'il peut donner un support physique à une désignation sociale. Une différence physique réelle n'existe que pour autant qu'elle est ainsi désignée en tant que signifiant. Or, quel moyen permet de faire de la différence souhaitée un blason identifiable, sinon le signe physique, la marque? Cette marque permet de ne pas se tromper, de ne pas se laisser avoir, mais surtout elle est garante de la vérité de ces différences, de leur irréversibilité et de leur caractère d'essence, car le signe physique ne se change pas. Il est indélébile. Le caractère de race n'a rien à voir avec la notion anthropologique de race, sinon par le biais de la marque physique qui est le signe du non-changeable. Dans le racisme, la race est le signe de la permanence. L'hostilité est un mouvement second, il se passe quelque chose avant. Elle s'exerce sur un caractère déjà désigné comme particulier dans l'univers social. Reconnaître le racisme à l'apparition de l'hostilité, c'est déjà trop tard. Il y a un racisme particulier contre les juifs, antisémitisme, un racisme particulier contre les colonisés, un racisme particulier contre les étrangers, xénophobie, et ainsi pour chaque groupe racisé. Chacun de ces racismes a des manifestations qui lui sont propres, mais tous ces racismes ont des caractères centraux communs. Tous ont en commun leur forme de rapport à la majorité, l'oppression. Oppression économique d'abord, oppression légale ensuite. Dans le cursus économique, il se heurte à des différences de salaire, des différences de qualification, au numerus clausus officiel ou implicite. En face de la loi, il ne dispose pas de l'ensemble des droits reconnus. D'autre part, ces groupes ont tous une caractéristique sociale commune. Ils sont posés comme particuliers face à un général. Ils sont recouverts d'un cachet de particularisme, quelle que soit la forme concrète qu'ils revêtent. Ils sont en cela différents de la majorité qui, elle, est dépourvue de particularités et conserve pour elle-même la généralité psychologique et sociale. Le rapport des minoritaires à la majorité est recouvert du sceau de la différence. Différents, opprimés, mineurs, ils le sont tous. Le système de justification majoritaire se nourrit à ce cercle vicieux. Mineur parce qu'incapable, incapable parce que différent, différent parce que marqué des stigmates de la dépendance. Le groupe majoritaire n'est pas défini, l'une des extrémités de la chaîne du rapport raciste est absente. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Elle est système d'antagonisme et non juxtaposition de groupes. L'existence même d'un tri entre les assimilations possibles ou impossibles signifie que l'assimilation est en fait un aspect du maintien des catégories racisées. Si, au niveau sociologique, la majorité ne se définit jamais comme particularité, son groupe est la généralité humaine, par contre au niveau individuel de la saisie de soi-même, le majoritaire se fait pure individualité au cœur des impératifs de la généralité humaine. Tout au contraire, la minorité ne lui apparaît jamais que comme une particularité sociologique qui n'est en aucun cas porteuse de la totalité humaine, alors qu'au niveau de l'individu, le minoritaire lui paraît se limiter à actualiser son groupe, hors de toute particularité personnelle. La particularité personnelle que s'accorde le majoritaire dans la perception qu'il a de soi-même est une conséquence de la généralité qu'il accorde à son propre groupe, en même temps qu'un élément de la domination mentale qu'il exerce sur l'individu d'un groupe différent. Dans une société blanche, le blanc ne sait pas qu'il est blanc, il est. Il est dans ses particularités individuelles. Extrait de Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique du pouvoir, l'idée de nature, édition X, 2016. La colonisation d'appropriation des hommes, trafic d'esclaves puis de main-d'œuvre et des terres, celle des deux derniers siècles, l'appropriation du corps des femmes et non de leur seule force de travail, ont induit la proclamation de la nature spécifique des groupes qui subissaient ou subissent ces relations. Et d'ailleurs, le système américain, d'abord esclavagiste, lorsqu'il s'est transformé en système racial au cours du 19e siècle avec l'abolition de l'esclavage, a défini l'appartenance dite de race bel et bien selon des critères de classe, puisque noirs furent et sont encore les blancs qui ont ou auraient un ancêtre esclave présumé. Ainsi, un arrière-grand-parent, c'est-à-dire un géniteur direct sur 8, ou même un aïeul sur 16, vous renvoie à un groupe social déterminé sous le masque de la naturalité. Car si l'on prend logiquement les suggestions du réalisme naturel au pied de la lettre, et non au pied de l'esprit, avoir 7 grands-parents blancs, c'est aussi bien être blanc. Mais pas du tout. On n'est pas blanc justement, on est noir, car c'est le système social qui décide. La situation sociale est qu'on est noir, car c'est ainsi qu'en décident les définitions sociales. La marque morphologique ne précède pas davantage le rapport social que ne le font l'inscription au fer rouge ou le tatouage d'un numéro. Le processus de prélèvement des esclaves était déjà en cours depuis un siècle environ lorsqu'interviennent les premières taxinomies qui incluent des caractères somatiques. La marque suivait l'esclavage et ne précédait nullement le groupe des esclaves. Le système esclavagiste était déjà constitué lorsqu'on s'est avisé d'inventer les races. L'idée spontanée de nature introduit une relation erronée entre les faits, elle change le caractère même de ces faits. Et ce, dans une direction déterminée, la nature vient énoncer l'éternité des effets de certains rapports sociaux sur les groupes dominés. Un rapport social, ici un rapport de domination, de force, d'exploitation, celui qui sécrète l'idée de nature, est considéré comme le produit de traits internes à l'objet qui subit le rapport, traits qui s'exprimeraient et se dévoileraient dans des pratiques spécifiques. Parler d'une spécificité des races, des sexes, parler d'une naturelle spécificité des groupes sociaux, c'est dire d'une façon sophistiquée qu'une nature particulière est directement productrice d'une pratique sociale et faire l'impasse sur le rapport social que cette pratique actualise. En somme, un pseudo-matérialisme. Or, l'idée de nature des groupes en présence évacue la connaissance du rapport de fait en concentrant l'attention d'abord, l'explication ensuite, sur des traits isolés, fragmentés, présumés intrinsèques, éternels, qui seraient directement les causes d'une pratique, elle-même purement mécanique. C'est ainsi que l'esclavage devient un attribut de la couleur de la peau, la non-rémunération du travail domestique, un attribut de la forme du sexe. Des notions de race et de sexe, on peut dire qu'elles sont des formations imaginaires, juridiquement entérinées et matériellement efficaces. L'invention de la nature ne peut pas être séparée de la domination et de l'appropriation d'êtres humains. Elle se développe dans ce type précis de relation. Si ce qui est énoncé sous le terme naturel est la pure matérialité des objets impliqués, alors rien de moins naturel que les groupes en question qui, précisément, sont constitués par un type précis de relation. La relation de pouvoir, relation qui les constitue en choses, à la fois destinées à et mécaniquement orientées, mais bien qui les constitue puisqu'ils n'existent comme choses que dans ce rapport. Ce sont les rapports sociaux où ils sont engagés, l'esclavage, le mariage, le travail immigré, qui les fabriquent tels à chaque instant. En dehors de ces rapports, ils n'existent pas, ils ne peuvent même pas être imaginés. Ils ne sont pas des données de la nature, mais bien des données naturalisées des rapports sociaux. Non, la race n'existe pas, si la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.
Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une théorie matérialiste du racisme, une théorie structurelle du racisme qui ne fait pas du racisme simplement des idées hostiles d'un petit groupe de gens d'extrême droite ou de vilains policiers, mais un fait qui structure la société moderne et qui a des bases matérielles, notamment la division hiérarchique entre racisants, racisés, colonisateurs, colonisés, nationaux, étrangers, etc. On a posé pas mal de jalons d'une de cette théorie matérialiste du racisme en première partie de l'émission. Et maintenant, Zaskia, notre invitée, va nous parler des trois écueils qui pensent qu'il faut vraiment éviter dans une théorie matérialiste du racisme, parce que, évidemment, la théorie matérialiste du racisme présente un certain nombre d'avantages, parce que elle évite le déni du caractère structurel du racisme qu'il y a dans l'antiracisme humaniste, prolétarien, idéaliste, etc. Elle évite aussi l'essentialisme de l'antiracisme du type du Parti des Indigènes de la République, en montrant bien qu'il s'agit de catégories qui, si elles sont réellement agissantes socialement, n'en sont pas moins construites historiquement. Mais, malgré tout, elle peut présenter un certain nombre de limites.
En effet, pour moi, les trois grands écueils, vraiment, qui sont du coup propres à l'approche matérialiste, ce sont, premièrement, le réductionnisme, deuxièmement, le fonctionnalisme, et troisièmement, ce que j'appellerais l'objectivisme, et un objectivisme intégral. quand je parle d'écueil, en fait, j'entends par là les obstacles auxquels on sera immanquablement confronté lorsqu'on utilise des concepts comme ceux de rapport de production, de position, de processus de racialisation, etc. Voilà, c'est le type de difficultés auxquelles on sera confronté et qu'à mon avis, il vaut mieux éviter si le but est de concevoir une théorie qui permette non seulement de formaliser les choses dans un schéma théorique, mais aussi de s'orienter en fait pratiquement dans les situations de lutte sociale. Donc, premièrement, le réductionnisme, l'écueil du réductionnisme, eh bien en fait, ce qu'il s'agit d'éviter, en fait, c'est de soit de réduire la race et le racisme à des choses qui, somme toute, n'existeraient que à l'état de discours ou à l'état de théorie ou à l'état de certaines prises de parole ou dans des textes. Donc typiquement, c'est la conception, voilà, que tu as qualifiée d'idéaliste, hein, de racisme, qui repose sur l'idée que le racisme, c'est une certaine manière de parler, une certaine manière simplement de catégoriser dans le discours, etc. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le réductionnisme
idéaliste.
Oui, idéaliste ou sémiologique, puisqu'il réduit en fait toutes ces choses à des phénomènes de langage, quoi. Et l'autre type de réductionnisme, c'est le réductionnisme économique, c'est-à-dire celui qui consiste à en fait finalement parler de tout ce dont nous avons essayé de rendre compte dans les termes d'un processus relativement autonome qui construise et qui donne une pertinence à la race, de parler de toutes ces choses en les traduisant en quelque sorte directement à des catégories comme ceux de division de la classe ou en les réduisant à des questions de classe ou de sous-classe, etc. Pour moi, le problème du premier écueil, enfin voilà, le réductionnisme idéaliste, disons, c'est d'absolutiser son objet, c'est-à-dire de faire comme si la race avait en quelque sorte une réalité qui lui est propre dans une dimension séparée du reste de la société. Et ça, bon, c'est pourquoi je mentionne cet écueil, parce qu'il est très très prédominant en fait dans les études de la race et du racisme, notamment dans le monde anglo-saxon, où elles sont, bon, on peut penser à titre d'exemple à ce qu'ont écrit Omi et Wynant, Racial Formation in the United States. Donc, on trouve dès l'introduction de l'ouvrage des références à la race, comme si vraiment c'était quelque chose de. Voilà, comme si c'était une réalité à part entière dont on pouvait parler séparément, quoi. Et le problème du réductionnisme économique, maintenant, pour le coup, c'est en fait le problème opposé. En fait, c'est de faire disparaître son objet plutôt que de l'absolutiser. En fait, dans certains de mes propres tentatives d'analyser le racisme et la racialisation, je dirais que si je dois faire une autocritique, il y a une tendance à un tel réductionnisme économique. Je pense à un texte que j'ai écrit autour de Ferguson, Baltimore et Tel Aviv au moment des émeutes, menées essentiellement par des prolétaires noirs qui ont secoué ces villes en 2014-2015. Où j'ai, en fait, pourquoi est-ce qu'on peut parler de réductionnisme économique là-dedans? Parce que j'ai tendance en fait à réduire la condition afro-américaine et la condition des juifs noirs aux populations surnuméraires, en fait. Donc à faire comme si il n'y avait aucune différence finalement ou aucune autre détermination qui intervenait dans la position et les conditions qui sont les leurs que la tendance du capitalisme à produire des populations surnuméraires, quoi. Et donc, en fait, face à une telle approche, on peut se demander à quoi bon s'intéresser à la race et au racisme si les éléments qui composent la race et le racisme ne sont finalement que d'autres versions de catégories comme ceux de populations surnuméraires ou de classes ou de surexploitées, etc. Donc, bon, pour le coup, si maintenant je peux me permettre, après cette autocritique, une certaine, on va dire, correction qui serait intervenue de mon erreur, je pense que dans mon texte sur les émeutes en Suède, je réussis un petit peu mieux à montrer en quoi la racialisation a quand même une certaine autonomie en tant que processus, social, dans la mesure où, en fait, ce qui caractérise les populations des banlieues des grandes villes de Suède, de même que les populations des banlieues de France, c'est d'être des groupes qui sont qui en fait qui personnifient par leurs caractéristiques de leur langue ou de leur phénotype, donc de leur apparence physique, etc., certaines déterminations du marché du travail. Donc, en ce sens que ces groupes sont entièrement relégués, donc en tout cas très très majoritairement relégués à certaines positions sur le marché du travail, et que ces positions en fait sont formalisées explicitement ou implicitement dans le langage de la race, en fait, en se référant à leur culture qui les rend inaptes au travail, en se référant à telle ou telle tendance de l'islam qui rendrait les jeunes criminels, etc. Donc ça c'est pour l'écueil du réductionnisme. Un autre écueil qui est très fortement lié au réductionnisme économique, mais qui à mon avis en est quand même relativement distinct, c'est l'écueil du fonctionnalisme. Et le fonctionnalisme, je pense qu'il ne se définit pas tant par sa réponse que par sa manière de poser la question. La question du fonctionnalisme, c'est la suivante. En fait, c'est de se dire, on a une conception du mode de production capitaliste qui se caractérise par sa propre finalité, qui est l'extorsion des plus-values. Et face à cela, on se demande, comment le racisme contribue-t-il à cette finalité du mode de production capitaliste ? Et ensuite, on va trouver dans la situation actuelle ou dans des situations historiques à quoi a bien pu servir, par exemple, le racisme anti-noir ou le racisme anti-arabe, etc. Et on va se demander comment ça a pu contribuer à créer, par exemple, des populations sous-qualifiées ou des populations à plus faible salaire, etc. Et comment comment tout cela arrange le capitalisme, en quelque sorte. Et le problème, en fait, de cette approche, et là je m'appuie en grande partie sur des textes du sociologue britannique marxiste Robert Miles, le problème de cette approche, c'est qu'en fait, finalement, il est impossible de distinguer ce qui constitue la cause et ce qui constitue l'effet. Donc, en d'autres termes, c'est pas vraiment une explication pour moi, en fait, l'explication fonctionnaliste du racisme. C'est qu'en fait, pour ce type de marxisme vraiment mécaniste, en fait, le racisme serait en quelque sorte un ensemble d'idées forgées par la bourgeoisie pour exploiter les populations de peau noire davantage que les autres, ou encore pour diviser la classe ouvrière. Donc ça, c'est une conception très 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 répandue dans les approches matérialistes. Et en fait, là où je dis que c'est pas vraiment une explication, c'est que en fait, généralement, ces explications du racisme prétendent avoir identifié les causes du racisme dans, typiquement, le colonialisme ou dans l'esclavage, historiquement, en fait. Mais, finalement, dans leur manière de présenter les choses, ces prétendues causes font un avec les effets du racisme. Puisque, en fait, quand on dit le racisme a pour fonction la justification de l'exploitation de la main-d'œuvre noire, comme c'est souvent le cas dans certaines théories donc notamment dans le contexte américain, découle de là aussi bien que la cause du racisme, c'est l'exploitation de la main-d'œuvre noire, mais il en découle tout aussi bien que la cause de l'exploitation de la main-d'œuvre noire, c'est le racisme. On n'a aucune, il n'y a rien qui nous montre en quoi ces deux choses, historiquement, en sont venues à être liées. C'est-à-dire pourquoi, à un certain moment donné, ce sont les populations noires qui sont exploitées de telle ou telle manière, ou dans tel ou tel contexte. Donc en fait, les explications fonctionnalistes se contentent de mettre en rapport deux phénomènes qui, à un moment donné, ont été historiquement contemporains, et reviennent en fait à présupposer ce qui est à expliquer.
Et d'un autre côté, ça paraît compliqué d'expliquer, par exemple, le racisme anti-noir aux États-Unis au début du 19e siècle, dans le sud des États-Unis, autrement qu'à partir de la situation de l'esclavage. Enfin, est-ce que le problème, finalement, que cette approche fonctionnaliste ne serait pas dialectique au sens d'Adorno, c'est-à-dire qu'elle n'admettrait pas, enfin, le problème de cette approche, c'est qu'elle n'admet pas qu'il y a quand même une espèce d'irréductibilité, une non-identité entre l'idéologie, enfin, entre les manifestations du racisme et la cause du racisme. Est-ce que c'est... Parce que d'un autre côté, j'ai quand même l'impression que ce qui est très problématique, effectivement, dans l'approche fonctionnaliste, c'est ça va te perdre d'ailleurs avec le réductionnisme économique, c'est de réduire encore une fois le racisme simplement à une espèce de moyen rationnel de la bourgeoisie, du mode de production capitaliste, etc., etc. Alors qu'il y a une dimension totalement irrationnelle de ça. Et la meilleure illustration, mais alors là plutôt pour l'antisémitisme que pour le racisme anti-noir, c'est clairement l'extermination des juifs qui n'avait aucune rationalité économique, qui était même presque anti-économique. Ça a contribué à la défaite du capitalisme et de l'État allemand. Et donc c'est vrai qu'effectivement, là-dessus, il faudrait compléter ça avec l'étude du racisme comme, je sais pas moi, comme psychologie de masse aussi. Oui, est-ce que ce que tu veux dire, c'est ça, c'est qu'il faudrait compléter finalement, avoir une espèce de matérialisme non identique, pas réductionniste, qui réduit pas tout simplement, hein, c'est une fonction du capital.
Oui, en fait, pour le dire très brièvement, en fait, ce que je trouve problématique dans le fonctionnalisme, c'est considérer, en fait, dans la situation contemporaine, l'association de telle position économique, sociale et politique à tel ou tel signifiant racial comme constituant une fonction. C'est-à-dire, oui. Les sans-papiers sont là pour exercer les emplois dans l'économie informelle, et ça tombe bien, on a aussi les arabes...
Pour exercer les CRS.
Oui, ça, c'est ça, pour donner... Et puis ça donne du travail, en effet, aux CRS et aux gestionnaires des centres de rétention administrative, etc. Enfin voilà, on voit assez vite en quoi c'est absurde, et en quoi, en tout cas, bon, ce n'est pas forcément absurde, mais en tout cas c'est descriptif, et ce n'est certainement pas une explication, en fait, de simplement se constater de parler de la fonction de telle ou telle population, puisqu'en fait, ce qui est important pour nous, si on veut vraiment parvenir à une théorie, justement, encore une fois, qui ne présuppose pas ce que le racisme présuppose, à savoir justement l'inscription de telle ou telle population dans un ordre naturel et transhistorique qui justifierait sa position d'infériorisé, eh bien ce qui est important pour nous, c'est de savoir aussi ce qui fait, ne serait-ce qu'à un certain moment donné, il y ait des sans-papiers rassemblés en un endroit, ou pourquoi, qu'est-ce qui constitue la catégorie même de sans-papiers, qu'est-ce qui définit les frontières de la citoyenneté, et ainsi de suite.
Et ce qui est clair en plus, c'est que le danger avec le fonctionnalisme, en interrogeant simplement ces groupes sociaux sur leurs fonctions, finalement, il les réifie, il en fait des objets, je pense qu'on va, on va en parler. Et puis, il y a le risque de dérive, c'est-à-dire, disons, une certaine ultra-gauche à une époque qui cherchait à tout prix d'avoir une explication fonctionnaliste d'Auschwitz et qui en a fini soit par une forme de relativisation, soit par une forme de négationnisme, pour le cas de Pierre Guillaume. Et c'est vrai que là, il y aurait effectivement des risques de dérive ou des risques, là, pour le coup, où ce genre de théorie serait carrément récupérable par... disons, l'aile la plus intelligente de l'extrême droite, qui dirait, oui, finalement, les migrants, c'est une arme du capital pour détruire les luttes de classe dans les centres capitalistes, ce qui est l'argument, par exemple, développé par Alain de Benoist et Francis Cousin. Donc, effectivement, il y a clairement des limites avec le fonctionnalisme, mais effectivement, le troisième point, effectivement, qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est la réification, l'objectivisme...
Oui, c'est ça. Donc oui, par le troisième écueil que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est celui de l'objectivisme intégral. Il me semble que ça, c'est un danger qui est vraiment spécifique au paradigme du concept de racialisation. Quand je critique l'objectivisme, c'est-à-dire l'idée sur laquelle on pourrait envisager le racisme strictement sous le prisme de rapports objectifs qui construisent une position de groupe dans une formation sociale capitaliste. Quand je critique l'objectivisme, je n'oppose pas à l'objectivisme un subjectivisme. Donc il ne s'agit pas de dire que ce sont des dispositions subjectives qui modèlent la réalité à leur guise. Non. Par contre, ce que j'essaye de souligner par là, c'est qu'il est important de ne pas envisager le racisme uniquement sous le prisme de l'assignation raciale. C'est-à-dire uniquement sous le prisme de ce que les racisants font aux racisés, pour reprendre les termes de Colette Guillaumin. Donc c'est pour ça que je précise objectivisme intégral. Il ne s'agit pas en fait de contester le moment objectif de la racialisation, mais l'aspect unilatéral qu'il y a à envisager les groupes racisés uniquement comme des objets de processus, donc uniquement comme des groupes passifs face à des politiques et des pratiques et des tendances auxquelles ils ne participent pas. Donc bon, il y a un certain nombre de, de spécificité à prendre en compte quand même, quand on parle, même quand on parle de catégorisation raciale ou d'assignation raciale, il faut quand même garder à l'esprit que ceux qui sont assignés et ceux qui sont catégorisés, eh bien, ce sont pas des êtres silencieux, décérébrés. Il y a une spécificité en fait des catégorisations d'êtres humains. Et bon, ça vaut aussi pour d'autres types de catégorisations, les catégorisations médicales, par exemple, les catégorisations. C'est que quand tu catégorises des sujets humains, eh bien, ils vont te répondre, ils vont avoir un avis sur la catégorisation. Ils vont la contester, ils vont au contraire peut-être même l'assumer, peut-être même l'utiliser comme un signifiant politique, etc. Ça, c'est des choses qui me paraissent particulièrement importantes dans le cadre du questionnement sur le racisme.
Et oui, effectivement, c'est clair qu'on ne peut pas penser la racisation et le racisme sans penser les racisés, sans penser leur propre processus de subjectivation, c'est-à-dire comment est-ce que ils s'emparent de cette condition d'existence qui leur a été imposée pour en faire quelque chose qui n'est pas simplement que leur fonction, un petit peu comme on peut s'intéresser à la classe ouvrière, pas uniquement en tant que classe qui produit des marchandises et qui est simplement une espèce de fonction du capital et une classe capitaliste, ce qui est en partie vrai, mais d'autre part à ses pratiques de refus du travail, à tout ce qui finalement excède et déborde le capitalisme et la société de classe, même si évidemment les prolétaires sont toujours inscrits dans la société de classe et le capitalisme. Donc effectivement, pas un objectivisme intégral qui réduit finalement les racisés à être simplement des dominés, des marqués, des stigmatisés, des dévalorisés, etc. Mais aussi comme des sujets agissant dans un cadre qui est contraignant sur la formation même du groupe d'ailleurs, hein, qui va évidemment favoriser les phénomènes d'essentialisation, mais qui sont bon, un petit peu inévitables de toute façon dans les formes dans ces formes de lutte. De toute façon, l'essentialisme, c'est jamais la faute des groupes dominés, puisque c'est eux qui ont été essentialisés notamment par le système raciste. Mais malgré tout, il y a une marge de manœuvre pour des processus de subjectivation qui vont donner naissance à tous les mouvements antiracistes, que ce soit les Black Panthers, que ce soit les Young Lords, que ce soit les mouvements des travailleurs arabes dans les années 70 en France. On voit bien qu'il y a un processus de subjectivation qui va faire qu'il va y avoir remise en cause totale ou partielle des stéréotypes, remise en cause totale ou partielle de la catégorisation raciale, remise en cause totale ou partielle, rarement abouti en tout cas, à part dans le cadre de décolonisation très particulière comme celle de l'Algérie, remise en cause du système raciste lui-même. Il faut penser, alors même si aujourd'hui ça peut paraître un peu post-moderne, l'agency, l'agentivité, la capacité d'action, disons, des racisés, sinon on les réduit à être simplement des victimes d'un processus sur lequel elles ne sont que des purs objets, sur lesquels elles n'ont pas prise. Or, c'est important, si on fait une théorie matérialiste du racisme, de penser aussi ces groupes racisés dans leur subjectivation, dans leur lutte, dans leur théorie critique, etc. etc.
Oui, c'est exactement ça. En fait, l'enjeu dans la critique de l'objectivisme intégral, c'est de se donner les moyens de concevoir le racisme comme un rapport antagonique, en fait. C'est-à-dire de voir que l'assignation raciale, bien que réelle, ne se fait pas déjà sans résistance, d'une part, et d'autre part, les signifiants raciaux qui sont ainsi institués et inscrits dans les rapports sociaux, eh bien, ils ne le sont pas de façon éternelle et pour toujours. Elles sont remises en cause par notamment le développement de nouvelles collectivités inclusives. Par exemple, on peut penser à la manière dont, dans la situation britannique à laquelle nous pouvons en revenir, eh bien, la référence au fait d'être noir, black, dans beaucoup de mouvements antiracistes enveloppés beaucoup plus généralement, non seulement les personnes de peau noire, mais des populations issues des ex-colonies britanniques, pour construire des alliances entre Irlandais, mineurs en grève et populations des quartiers noirs exposés aux violences policières. C'est pour dire qu'il y a une plasticité aussi relative de ces catégories, et que en fait on peut jamais prétendre en tant que théoricienne ou théoricien avoir en fait le monopole de la détermination de la signification de telle ou telle couleur de peau ou de telle ou telle culture, etc. Il faut se donner les moyens de, d'avoir une théorie qui soit suffisamment en dialogue avec ce qui n'est pas elle, c'est-à-dire les pratiques de lutte, pour rendre justice à ces choses.
Oui, effectivement, je pense que c'est un bon point pour terminer, c'est-à-dire que il ne faudrait pas que la théorie matérialiste, alors qu'elle essayait de penser des perspectives politiques plus émancipatrices que ses deux concurrentes, qu'elle en revienne finalement à décourager les luttes déracisées, les luttes antiracistes, et à les nier même dans leur existence actuelle et historique. Eh bien, en tout cas, on te remercie, Zaskia, pour cette critique autocritique des écueils possibles de la théorie matérialiste du racisme.
Merci à toi.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas, si la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.